Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains. Comme Wayne l'a dit, nous allons commencer le chapitre 11. Nous allons lire les versets 1 à 10 de Romains chapitre 11. On a déjà vu que Paul a ce grand fardeau pour ses compatriotes. Il nous l'a dit dans le chapitre 9, au chapitre début du chapitre 10. Il dit que sa prière, c'est qu'il soit sauvé. Au chapitre 9, il nous a dit comment Dieu a accompli ses desseins souverains dans le cours de l'histoire. Et au chapitre 10, il a souligné que toute la responsabilité de la condition d'Israël repose sur les épaules d'Israël. Et donc, il continue avec son raisonnement dans le chapitre 11. Et voici donc la parole de Dieu. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie ? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Et jusque-là, la parole de Dieu. La grande affirmation de Paul dans sa lettre aux Romains, c'est que des hommes, des femmes, jeunes et moins jeunes, sont justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, et sans les œuvres de la loi. Et nous l'avons souligné. Et on a vu dans les premiers chapitres de cette lettre comment l'apôtre Paul était mal compris quand il enseignait cette vérité. Certains pensaient que l'apôtre Paul renversait la loi de Dieu, qu'il rejetait les Écritures de l'Ancien Testament. Mais Paul a souligné dès le début que cette justice de Dieu qui vient dans l'Évangile par la foi en Jésus-Christ est une justice qui nous est donnée par la grâce de Dieu, sans la loi. Et pourtant, cette justice qui est donnée par grâce est la justice à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Chapitre 3, verset 21. En d'autres mots, quand Paul est accusé de renverser les Écritures de l'Ancien Testament, Paul retourne vers l'Ancien Testament pour montrer que ses accusateurs ont mal compris les Écritures de l'Ancien Testament. C'est comme pour le Seigneur Jésus-Christ lui-même ou pour Étienne, le martyr qui a joué un rôle important dans la conversion de Saul de Tarse. Les mêmes accusations sont toujours présentes dans le ministère de l'apôtre Paul. On affirme qu'il est contre l'Ancien Testament et en particulier qu'il est contre son propre peuple, Israël. Mais c'est très loin de la vérité parce que Paul donne ici des preuves très claires, très évidentes, qu'il a un amour profond pour ses compatriotes. un fardeau pour eux. Il a le cœur brisé, on l'a vu. Il connaît un chagrin perpétuel parce que ses compatriotes, selon la chair, ne croient pas dans le Seigneur Jésus-Christ comme étant leur Messie. Et Paul explique ce fardeau. Il défend l'Évangile contre cette accusation qui est faite contre lui. Et en faisant cela, il cite et il explique différents passages de l'Ancien Testament. Et si vous relisez ces chapitres dans certaines versions, on a toutes les références qui sont marquées en bas de la page, avec les renvois. Paul se révèle comme étant un maître de l'Ancien Testament. Il utilise l'Ancien Testament pour prouver que la véracité de l'Évangile, pour expliquer aussi la situation présente d'Israël et de son rejet de Jésus-Christ. Il fait ici ce qu'il a fait en acte 26, ou ce qu'il a fait pendant tout son ministère, qu'on peut le lire dans le livre des Actes. Quand il arrivait dans une ville, il allait à la synagogue, il raisonnait avec ses compatriotes à partir de l'Ancien Testament pour montrer que le Seigneur Jésus-Christ est bien le Messie qui était promis. Et on a donc ici un aperçu de la prédication de l'apôtre Paul, son utilisation de l'Ancien Testament. Et à la fin du livre des Actes des Apôtres, Paul est assigné à résidence à Rome et en attendant son procès. Et il invite les chefs religieux pour encore une fois expliquer l'Ancien Testament. Et on lit que lorsque les chefs religieux quittent Paul en désaccord, Paul va citer Ésaïe 6, si on lit en acte 28, les versets 26 et 27, « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Et c'est une citation d'Ésaïe 6, versets 9 et 10. Paul, comme j'ai dit, n'a cessé de le dire au chapitre 10 qu'Israël est responsable. Chapitre 10, verset 3, « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Bien entendu, les compatriotes de Paul ne sont pas les derniers à agir de cette façon. Ce n'est pas quelque chose qui se faisait uniquement ou qui s'est fait uniquement au temps de Paul dans les synagogues, mais c'est quelque chose qui se fait et qui s'est fait dans même des églises pendant des siècles et qui se passe encore aujourd'hui. On peut aller dans certains milieux qui se disent évangéliques, protestants évangéliques. On peut prêcher l'évangile, on peut annoncer la grâce gratuite de Dieu en Christ. On peut raisonner à partir des Écritures et on peut être rejeté. Ces personnes vont dire « Ah, mais ça c'est nouveau pour nous, ce message est nouveau pour nous. » Ils montrent par là leur ignorance de l'histoire de l'Église, leur ignorance des Écritures. Et puis ensuite, ils vont, au lieu de s'humilier et de crier à Dieu pour recevoir la justice qui vient de Dieu par la foi en Christ, ils vont chercher à établir leur propre justice. C'est malheureusement une caractéristique, peut-être la caractéristique principale du monde protestant évangélique aujourd'hui. Paul veut souligner que la faute ne repose pas avec l'Évangile, mais avec ceux qui rejettent l'Évangile. Et la situation est terrible, et Paul le sait, parce qu'il est capable de regarder en arrière vers le temps où lui-même était assis là où ses compatriotes sont assis. Il peut comprendre leur aveuglement, leur dureté de cœur. Il comprend la colère qui était contre lui quand il prêchait l'évangile de Jésus-Christ, parce que lui-même a été actif dans tous ces domaines avant d'être amené à la foi en Christ. Et lorsqu'il s'appuie sur l'Ancien Testament, qu'il regarde à la situation de ses compatriotes, il les laisse sans excuse quant à leur rejet du Seigneur Jésus-Christ comme le Messie promis. Et donc il arrive au chapitre 11, et cette question évidente au début du chapitre. Et la dernière fois, on a dit en fait que c'est la troisième de quatre questions qui commence avec pratiquement de la même manière au chapitre 10, verset 18. « Mais je dis, n'ont-ils pas entendu ?» Chapitre 10, verset 19. « Mais je dis, Israël n'a-t-il pas su ?» Ici, chapitre 11, verset 1. « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Et la quatrième, c'est au verset 11. « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ?» Et on sent que l'apôtre Paul arrive progressivement à la grande conclusion de son argumentation. Et la question qu'il pose ici au verset 1 est, je dirais, la question la plus évidente si on a suivi l'argumentation de Paul dans les chapitres 9, 10 et 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Et tout ce que Paul a dit jusqu'à ce point pourrait nous amener à penser que ce serait la conclusion logique. Le peuple de Dieu a rejeté le Fils bien-aimé. Il n'y a donc qu'une seule chose que Dieu puisse faire. Dans un jugement juste et saint, Dieu rejette ce peuple qu'il a rejeté. Ce serait logique. Mais avec tout ce que Paul a dit dans les chapitres 9 et 10, la chose étonnante, c'est la réponse qu'il donne, qui est à l'opposé de la logique. Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là. Loin de là. C'est une expression qu'on a déjà rencontrée au chapitre 6 et au chapitre 7, où Paul réagit avec tout son être, avec toutes ses émotions. Il ne veut pas qu'on puisse croire que c'est la conclusion de son argumentation. Certaines versions traduisent par « certainement pas » ou « jamais de la vie ». Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Jamais de la vie ! Et Paul sait que c'est une conclusion inattendue et qu'elle demande quelques explications. Et il va nous les donner dans les versets 1 à 10. Il y a quatre grands points. D'abord, la fin du verset 1 jusqu'au verset 4, il nous donne un exposé de sa réponse. Pourquoi il répond ainsi ? Loin de là. Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Ensuite, les versets 5 et 6, il nous donne une implication. Verset 7, une conclusion, et ensuite, il confirme sa conclusion en s'appuyant sur l'Ancien Testament. Comment Paul peut-il dire, à la lumière du rejet de Jésus comme Messie, que Dieu n'ait pas rejeté son peuple ? Et Paul donne sa réponse en plusieurs points. Donc, le premier grand point, l'exposé de Paul au sujet de sa réponse, loin de là. Et ce premier grand point est divisé en plusieurs petits points. Le premier petit point, Paul répond d'abord d'une manière autobiographique, à la fin du verset 1. « Car moi aussi, je suis Israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu a-t-il rejeté Israël ? Loin de là ! Car moi aussi, je suis israélite. » Paul est en train de dire ici, « Je suis une preuve évidente que Dieu n'a pas rejeté son peuple, parce que moi-même, je suis israélite. » C'est son témoignage personnel, c'est son argument autobiographique. Paul dit haut et fort que la conclusion qui serait logique n'est pas la bonne, parce que Dieu a eu pitié de Paul. Paul dira plus tard que de tous les hommes, il est le premier des pécheurs, il est le plus grand des pécheurs. Et même si on doit se voir aussi, on doit ressentir cela pour nous-mêmes, dans un sens, Paul ressentait cela comme étant quelque chose de vrai au sens littéral, pas seulement à cause de la profondeur de son péché, mais parce qu'il était le pécheur qui a cherché à détruire la jeune Église, on l'a lu tout à l'heure, en acte 26. Il a persécuté les chrétiens. Paul dira en Philippiens chapitre 3 qu'il dépassait ses compatriotes, non seulement dans sa descendance, sa généalogie, mais il les dépassait aussi dans sa rébellion contre Dieu, contre l'Évangile. Mais Paul est la preuve évidente que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et pour Paul, c'est un grand espoir. On peut le voir sur un plan, on peut le comprendre sur un plan personnel. Combien de fois est-ce que nous n'avons pas raisonné en nous-mêmes quand on va prier pour quelqu'un ou quand on rend témoignage à quelqu'un que cette personne nous repousse, on va demander au Seigneur, mais Seigneur, tu m'as sauvé, moi, tu m'as fait grâce. Tu peux le faire aussi pour un tel. Moi, je suis une preuve de ta grâce envers des pécheurs. Tu peux aussi faire grâce envers d'autres. Paul a donc cette assurance qui vient de sa propre vie, cet argument autobiographique, ce témoignage personnel que Dieu n'a pas entièrement rejeté son peuple Israël, parce que Paul est israélite. Le deuxième petit point, c'est que Paul nous donne ensuite une raison doctrinale, verset 2. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Dieu n'a pas choisi son peuple à cause d'une qualité qu'ils avaient. Non, ils étaient eux aussi pécheurs, comme tout être humain. Et Paul va amener son âme à se reposer dans ce grand principe biblique que lorsque Dieu décide de mettre en action ses desseins d'amour et de sauver des âmes, Dieu accomplit ce dessein. Il sauve ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose ou parce qu'ils... Non, c'est ceux qu'il a connus d'avance. Le troisième petit point, c'est que Paul raisonne à partir de l'Ancien Testament. Peut-être que Paul a raisonné en lui-même, en se posant des questions. Est-ce que je vais être le seul Israélite qui sera sauvé ? Et Paul s'est retourné vers l'Ancien Testament et vous voyez ce qu'il dit dans les versets 2 à 4 au sujet d'Élie qui se sentait seul. Et Dieu l'a encouragé en lui disant qu'il avait réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Et tout comme c'était le cas alors, c'est encore le cas aujourd'hui. Oui, la plupart des Israélites, la majorité des Israélites ont rejeté le Seigneur Jésus comme leur Messie. Paul l'a vu partout où il est allé. Partout où il est allé dans la synagogue, il a été rejeté. Mais partout où il est allé, il y avait aussi ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. En Actes chapitre 21, quand Paul arrive à Jérusalem, il va rendre visite à Jacques, le responsable de l'église à Jérusalem. Et on lit en Actes 21, verset 19, après les avoir salués, après avoir salué Jacques et les anciens, Paul raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Et dans ce contexte, Jacques et les anciens vont chercher à l'encourager et lui répondre, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru. » Combien de milliers de Juifs ont cru. Et Jacques veut encourager Paul en lui montrant que, comme Paul le dit dans ce passage, il y a un reste. Il y a un reste en Israël selon l'élection de la grâce. Et cela nous amène au deuxième grand point qui est l'implication. L'implication de cet exposé. Et là, Paul cite Élie, qui dit, « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul je suis resté. » Et il cherche à m'ôter la vie. Et Dieu lui a répondu, « Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » Et Paul déduit l'implication suivante au verset 5, « De même aussi dans le temps présent. » Il ne veut pas seulement dire « dans le temps présent » à l'époque, au moment où j'écris cette lettre. Non, il veut dire que Cela est vrai non seulement dans le passé, au temps de l'Ancien Testament, au temps d'Élie, mais cela est encore vrai dans l'ère du Nouveau Testament. Dieu, dans sa miséricorde, a gardé un reste selon l'élection de la grâce. Il précise au verset 6, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. » Pourquoi Paul dit cela ici? Pourquoi est-ce que Paul dit cela ici? Quelle est l'implication qu'il en déduit ici? Et l'implication, elle est celle-ci. Si un Israélite doit être sauvé, il doit être sauvé par exactement la même grâce par laquelle l'apôtre Paul a été sauvé et par laquelle tout homme doit être sauvé. Et ça, c'est une réalité permanente. L'apôtre Paul comprend que Dieu ne pourvoit pas un moyen de salut pour Israël, que ce soit dans le passé ou dans le présent, et un autre moyen de salut pour les non-juifs, pour les païens. Non, il n'y a qu'un seul moyen de salut dans l'Ancien Testament et un seul moyen de salut dans le Nouveau Testament. Il n'y aura jamais d'autre moyen de salut. Il n'y a que le moyen de salut par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et parce que cette vérité est tellement importante pour Paul, Paul souligne, il décortique cette vérité. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Et c'est ce que l'Ancien Testament enseigne. L'Ancien Testament enseigne que les hommes et les femmes, jeunes et moins jeunes, sont sauvés par grâce. L'Ancien Testament n'a jamais enseigné que quelqu'un pouvait être sauvé en gardant la loi. C'est pour cela que Paul, qui enseigne que le salut est par grâce, a utilisé un grand nombre d'illustrations de l'Ancien Testament pour montrer que cet évangile est parfaitement en accord avec l'enseignement de l'Ancien Testament. Mais c'est une chose pour l'Ancien Testament d'enseigner cette vérité. C'en est une autre que cet enseignement soit compris par ceux qui entendent l'Ancien Testament. Il y a toutes ces indications dans l'Ancien Testament au sujet du peuple de Dieu qui a reçu la parole de Dieu, qui a reçu le message du salut par grâce. Mais il y a aussi tous ces avertissements de comment ce peuple allait perdre de vue ce besoin de grâce, qu'il allait retomber dans le piège de vouloir établir sa propre justice. Un peu de grâce, un peu des œuvres, une combinaison des deux. La plus grande illustration est sans doute celle que Jésus donne dans la parabole du pharisien et du publicain, Luc chapitre 18. Si Jésus avait terminé cette parabole en posant la question « Qui d'entre ces deux hommes est parti du temple justifié ?» le peuple juif aurait très bien pu répondre ben, « C'est le pharisien qui est parti justifié. » Après tout, il a quand même parlé de grâce. Le pharisien a commencé sa prière « Ô Dieu, je te rends grâce. » Est-ce que par là, il ne reconnaît pas qu'il a bénéficié de la grâce de Dieu? Pas quand on lit les mots qui suivent. Ce que le pharisien dit « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas, comme les autres. » Il y a sans doute des millions de variations de cette réponse. Quand quelqu'un fait cette déclaration, une déclaration qui dit « Dieu m'a fait grâce parce que » et que le mot suivant n'est pas « Dieu » mais un autre mot, quel qu'il soit, alors la grâce n'est plus grâce. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres, le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Même si le pharisien rend grâce à Dieu, dans son cas, la grâce n'est pas grâce. Et cette attitude ne se limite pas au judaïsme avec lequel Paul se battait. C'est une attitude, en fait, qui caractérise le cœur humain. Une des plus grandes hérésies qui circule aujourd'hui affirme que l'homme est justifié en mourant. Vous l'avez peut-être entendu lors des obsèques. On entend les personnes dire « Ah, il ne souffre plus, il est dans un endroit meilleur. » Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il est dans un endroit meilleur ? Est-ce qu'il a cru dans le Seigneur Jésus-Christ ? Est-ce que les fruits de sa foi étaient visibles dans sa vie ? Non. La raison pour laquelle il est dans un endroit meilleur, c'est tout simplement parce qu'il est mort. Voilà le raisonnement. Mais ça, ce n'est pas la grâce, ce n'est pas l'évangile. Ou alors on entend d'autres personnes dire « Oui, je suis reconnaissant que Dieu ait manifesté sa grâce envers moi parce que je sais que je n'ai pas réussi à 100%. » Ces personnes croient dans une grâce de nappage qui vient napper, qui vient garnir les œuvres. Mais cette grâce de nappage n'est pas une grâce, n'est pas la grâce. C'est un contrat négocié avec mon esprit pervers, ce n'est pas la grâce. Partout où je pense qu'il y a quelque chose en moi qui pousse Dieu à me faire grâce, à part le péché qui rend nécessaire la grâce de Dieu. Mais partout ailleurs, je disgracie la grâce. Et la grâce n'est plus grâce. On entend parfois le proverbe « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais ce n'est pas la grâce. Le ciel vient en aide à ceux qui ne peuvent pas céder, à ceux qui ne peuvent rien faire. Ça, c'est la grâce. Et Paul veut confirmer ici que s'il y a ce reste selon l'élection de grâce, ce doit être clair pour tous que le salut de ses compatriotes doit être entièrement par la grâce non méritée de Dieu. C'est la vérité qui nous humilie le plus dans l'Écriture, que le salut n'est que par grâce. Comme le disent plusieurs cantiques, « Seigneur, je n'apporte rien » ou « tel que je suis, sans rien à moi » ou « Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, je n'ai rien ». Même si Paul s'adresse d'abord à ses compatriotes, il fait ressortir ici des principes qui s'appliquent à tous. Et cette réalité biblique, cette vérité nous saisit, elle nous remplit notre âme d'émerveillement, de joie, de louange, comme rien d'autre dans le monde ne peut le faire. Dieu m'a fait grâce, alors que je ne méritais pas. Paul a donné l'exposé de sa réponse, il a déduit l'implication, il arrive à la conclusion, c'est le troisième grand point. Il dit au verset 7 qu'Israël, dans son ensemble, n'a pas obtenu ce qu'il cherchait. Et il nous a déjà expliqué cela au début du chapitre 10. Israël a cherché à établir sa propre justice au lieu de se soumettre à la justice de Dieu. Cette justice qui vient par la foi en Jésus-Christ, sans aucun mérite. Ce qu'Israël cherche, verset 7, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. Par grâce, il y a ce petit reste. Paul en fait partie. Mais il y a d'autres chrétiens partout. À la fin de sa lettre aux Romains, il salue un grand nombre de personnes à Rome, en particulier. Il va saluer Andronicus et Junias, des membres de sa famille, des parents, qui étaient, comme il le dit, en Christ avant lui. Il y a des chrétiens partout, mais ils ne font pas la majorité. Et Paul rajoute que les autres ont été endurcis. Et il le confirme en nous renvoyant à l'Ancien Testament. Et c'est le quatrième grand point, la confirmation de l'Ancien Testament. Et les passages que Paul cite sont saisissants. Tout d'abord, il cite Ésaïe 29, verset 10. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et après avoir cité un prophète, il cite le psaume 69. Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Paul est en train de dire à ses compatriotes, tout est écrit dans l'Ancien Testament. Vous ne l'avez pas vu. Non seulement vous ne voyez pas que Jésus est le Messie qui était promis, que le moyen du salut est par la grâce imméritée de Dieu, mais vous ne voyez pas que c'est ce que les Écritures disent depuis toujours. Ce n'est pas un message qui est nouveau. Quand il dit que les autres ont été endurcis, c'était exactement ce que l'Ancien Testament dit. D'ailleurs, les passages que Paul cite, il y a cette notion que, dans un sens, ce qui provoque l'endurcissement, c'est qu'ils ont eu l'offre de la grâce dans l'Évangile. Les paroles de David au verset 9, que leur table soit pour eux un piège, un filet. Je ne sais pas si les jeunes ici ont joué avec les transformeurs, des jouets qui, d'abord, dans un premier temps, ressemblent à très souvent une voiture, un véhicule, et qui, en quelques mouvements, hop, deviennent autre chose, un robot ou quelque chose. Et on a ici une image, on a une table qui se transforme en piège. Mais qu'est-ce qu'une table? Qu'est-ce que Paul veut dire? Qu'est-ce qu'une table dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce qu'une table aujourd'hui? On a cité l'invitation que David a faite à Méphibosheth. Qu'est-ce qu'une table? C'est un endroit où la nourriture, où les repas sont servis, où on trouve l'approvisionnement, où on trouve l'abondance. David écrira en psaume 23, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Une image de la provision de Dieu, pleine de grâce, d'abondance. Ésaïe 55, verset 1, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Puis au verset 2, « Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » La table est mise avec l'abondance de la faveur et de la grâce de Dieu. Alors quel est le problème? Le problème, c'est que ce n'est pas seulement la loi et ses accusations qui endurcissent le cœur humain. C'est aussi l'Évangile. L'Évangile est le salut par grâce qui endurcissent le cœur du pécheur. Cet évangile qui promet un salut gratuit, un salut complet au pécheur, qui promet des richesses venant de Dieu, qui couvrent toute la table. Cet évangile, l'homme n'en veut pas. Et il endurcit son cœur toujours plus contre la grâce de Dieu. Paul nous dit, c'est ce qui s'est passé. La tragédie, c'est que ces personnes pensent qu'en renversant la table de l'Évangile, elles sont victorieuses, alors qu'en réalité, elles tombent dans un piège. Ces personnes qui rejettent l'Évangile, qui rejettent cette table, tombent dans un piège et endurcissent leur cœur encore plus. Et Paul, avec ses paroles, veut nous rappeler d'autres paroles. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La question pour nous ce matin, est-ce que nous croyons réellement dans la grâce de Dieu? Est-ce que nous croyons réellement que notre seul espoir est que Dieu, dans sa miséricorde, se penche vers nous, qui ne méritons que la condamnation, et que dans sa grâce, il nous amène à lui et qu'il nous accepte, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ? Ou est-ce qu'il y a encore des restes de notre autosuffisance, qui cherche à apporter quelque chose et nous empêche de jouir pleinement du salut parfait en Jésus-Christ. La grâce de Dieu est bien plus que ce que nous pensons. Que cette grâce de Dieu vienne diluer, vienne enlever tous ces restes d'autosuffisance, toutes ces pensées de contribution à notre salut. Et que nous soyons toujours plus émerveillés par cette grâce que Dieu a manifestée en Jésus-Christ. Ce salut que nous ne méritons pas. C'est une grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ. Une grâce que personne ne mérite. Que Dieu nous aide à comprendre ses paroles et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.